Cette réponse, le Bouddha la donna aux Kalamas. Je ne sais pas si c'était parce qu'il venait de la ville de Kalama, je ne sais pas. C'est donc un groupe, une tribu d'hommes appelée les Kalamas. Et il vint voir le Bouddha à la suite de disputes entre brahmines hindous et des reclus disciples du Bouddha, chacun affirmant que leur doctrine et méthode étaient les bonnes. Et les Kalamas étaient confus, perplexes, ne savaient que penser, comment décider. Donc le Bouddha répondit, Kalama, n'agissez pas d'après oui-dire, ni d'après ce qui a été transmis par d'autres, ni d'après ce que les gens disent, ni d'après ce que déclarent d'autorité vos enseignements traditionnels. N'agissez pas d'après raisonnement, ni déduction, ni d'après discussion sur les méthodes, ni après réflexion sur une opinion et l'approbation de cette opinion, ni par respect en pensant que l'on doit déférer à un reclus. Mais Kalama, quand vous savez de par vous-même, ces enseignements ne sont pas bons, ils méritent le blâme, ils sont condamnés par les sages. Ces enseignements, quand ils sont suivis et mis en pratique, causent dommage et conduisent à la souffrance, eh bien rejetez-les. Donc je n'ai pas le temps ce soir d'explorer tout ce sur quoi nous ne pouvons pas compter. Ça serait très intéressant. Mais j'ai décidé de me concentrer sur ce qui nous aide. Je toucherai juste un peu sur ce sur quoi il ne faut pas compter. Donc en fait, le Bouddha nous renvoie sur nous-mêmes, sur notre jugement et surtout sur notre expérience. Peut-être que nous aimerions bien entendre une réponse plus facile, recevoir en quelque sorte une mesure extérieure à nous-mêmes, contre laquelle nous pourrions mesurer ce entre quoi nous hésitons et être 100% sûrs. Ça c'est pour moi et ça non. Un peu comme quand on choisit un écrou pour un boulon. Hein? Celui-là il va et l'autre il ne va pas, c'est très net, c'est facile. Mais plus la décision que nous essayons de prendre est importante, plus nous voulons nous engager, plus il est important que le choix vienne de nous-mêmes. Nous sommes responsables de nos actions. Et nous avons notre part de responsabilité sur les effets qu'elles ont sur les autres. C'est donc sur nous-mêmes que nous devons compter. Ça ne veut pas dire que nous n'écoutons pas ce que les gens disent et que nous rejetons sans discriminer les enseignements traditionnels qui font partie de notre culture, que nous nous fermons sur nous-mêmes en ayant peur d'être influencés par les idées et les avis des autres. L'excès de doute et de méfiance, l'arrogance, sont tout aussi néfastes à un choix sage qu'un excès de naïveté ou de crédulité. Tout ça sont des tendances qui nous troublent, qui nous embrouillent et qui nous donnent peur de faire un choix, peur de nous engager. Donc le Bouddha nous renvoie sur nous-mêmes. C'est donc vers nous-mêmes que nous nous tournons, dont nous nous occupons. Quelles sont les qualités que nous devons cultiver pour bien choisir? Je crois que la plus importante, c'est la clarté. La connaissance de soi, savoir quel est mon but. La vérité, par exemple, qu'est-ce que j'entends par la vérité? Une raison de vivre, une réponse à des questions existentielles, aller au-delà de moi-même. Donc, une clarté intellectuelle, on se pose des questions, on essaie, on réfléchit, on essaie de comprendre, basée sur la raison, sur la compréhension de soi-même. Mais il y a une autre façon d'être clair. C'est aussi très important, et c'est au niveau des émotions, au niveau de l'intuition. Une clarté qui est basée sur la confiance, sur la foi en nous-mêmes. Ce qui était très clair pour moi, par exemple, quand je suis arrivée au moment de choisir, c'est ce que je ne voulais plus. Ça, je le savais, c'était très net. Émotionnellement, une façon d'être, certaines choses, un genre de vie dans lequel j'étais engagée, je n'en voulais plus. J'en avais assez, tout simplement. Et je ressentais aussi très clairement une attraction vers une certaine façon d'être, une certaine façon de vivre, plus méditative, plus altruiste, plus profonde et plus vraie. Donc une clarté basée sur la connaissance de soi au niveau des idées et au niveau émotionnel, de façon à ce que nous puissions savoir quelle est l'origine de ces idées, quelle est la nature de ces émotions, d'où viennent-elles, par quoi sont-elles motivées. On peut vouloir suivre une voie spirituelle pour échapper à nous-mêmes ou à un aspect de nous-mêmes. Par exemple, on manque de confiance en nous-mêmes, donc nous cherchons quelque chose d'extérieur. Nous souffrons de culpabilité et nous cherchons l'absolution. Ou parce que nous avons eu une vision profonde de quelque chose d'autre, de plus élevé. Et ce genre d'expérience, cette vision dont je parle, peut être prolongée ou rapide comme un éclair. C'est comme si nous réalisions quelque chose de façon très claire, très profonde, et nous savons que c'est vrai. Du moins, au moment même. Nous savons que nous pouvons faire confiance à cette réalisation. Cela peut arriver à la suite d'un décès, d'une lecture de texte, ou de bien d'autres façons. Mais c'est une expérience qui diffère de toute autre expérience habituelle. Et c'est souvent ce genre d'expérience qui nous amène à chercher une voie spirituelle. Parfois, c'est arrivé il y a longtemps. Pour moi, je peux dire que ma première expérience de vision spirituelle était aux environs de 12-13 ans. Ce n'est pas une vision dans le sens de voir quelque chose, mais dans le sens de percevoir, du moins, au moment où je sortais de l'enfance, quelle était la vie qui m'attendait, la vie d'adulte, une vie normale, de regarder autour de moi de savoir qu'il n'y avait pas que ça. Ce n'était pas possible pour moi. Je savais profondément qu'il n'y avait que ça. Que naître, peut-être donner la vie à quelqu'un d'autre, être malade, avoir se disputer, et à la fin mourir. Donc ce que je voyais en face de moi, la vie, en face de moi, la vie d'adulte, que tout le monde avait l'air de sembler normal, pour moi, c'était... je savais qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait plus en moi que ça, il y avait plus dans l'homme, aussi bien si près de l'animal, si près du génie, que juste ça. Donc c'était une expérience profonde, une expérience spirituelle. Je ne savais pas comment à cet âge-là, quelque sorte m'en sortir, mais je savais qu'il n'y avait pas que ça. Ce qu'il est important de clarifier, c'est dans quelle mesure nous sommes motivés par ce qu'il y a de plus noble en nous. Par cette vision, cette intuition, cette connaissance. Parce que c'est sur cela seulement que nous pouvons vraiment compter. Quand nous nous posons la question que le Bouddha suggère, ces enseignements sont-ils bons? Méritent-ils le blâme? Causent-ils dommage? Où conduisent-ils? Dois-je les suivre ou les rejeter? C'est seulement si cette ou ces visions initiales qui nous motive, même faible, même lointaine comme un écho, comme perçu à travers un brouillard, mais néanmoins très vrai pour nous. C'est ça, seulement si cette vision qui nous motive, que nous pouvons être sûrs de ne pas agir d'après oui-dire, selon la volonté, les idées ou les visions des autres. Si c'est cette vision qui nous motive, nous pouvons être ouverts aux idées, aux visions des autres, pour les mesurer avec les nôtres, enrichir les nôtres et pas les étouffer. Mais il est difficile de nous connaître. Nous sommes profonds, vastes, complexes. Il est difficile de savoir dans quelle mesure nos aspirations sont nobles ou viles. Savoir ce qui motive vraiment notre choix. Donc le Bouddha suggère d'autres moyens plus objectifs. D'abord notre expérience. Quand nous lisons des textes religieux ou écoutons des exposés, quand nous nous renseignons, quand nous sommes à la recherche d'une voie spirituelle, Il est important de nous poser cette question. Est-ce que cela est vérifié par mon expérience? Dans certains cas, ce qui est dit et écrit peut être vérifié par une expérience déjà acquise. Par exemple, si je vous dis, être séparé de ce que l'on aime est cause de souffrance. Vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai déjà eu cette expérience? Puis-je donc dire aussi qu'il est vrai d'après mon expérience qu'être séparé de ce que l'on aime est cause de souffrance? Mais dans d'autres cas, ça ne fait pas partie de notre expérience. Si je vous dis la méditation bouddhiste conduit à la connaissance de soi, à la transcendance de soi, si vous n'avez pas pratiqué ces méditations, vous ne pouvez pas les tester en quelque sorte dans le feu de votre expérience comme les orfèvres testaient les métaux. Je ne sais pas s'ils le font toujours de cette façon-là. Et c'est souvent le cas quand nous faisons nos premiers pas sur une voie spirituelle. Nous nous engageons sur un chemin inconnu. Nous pratiquons des méthodes nouvelles. Nous devons donc prendre des risques mesurés, et essayer ces méthodes. Et nous poser la question, cause-t-elle dommage ? Mène-t-elle à la souffrance ou mène-t-elle là où je veux aller? Est-ce que leurs effets correspondent à ma vision, à mes plus profondes connaissances de ce qui est vrai, de ce qui est beau, de ce qui est bon? Sur l'autre, l'autre moyen objectif, ce sont les sages. En fin de compte, c'est nous qui sont responsables de nos actions. C'est nous qui prenons les décisions. Mais nous sommes la plupart du temps très loin d'une perception de nous-mêmes et de notre but qui est clair et vrai. Le miroir de notre esprit est troublé par des motivations diverses, des conflits intérieurs, la peur des autres, peur du changement, du nouveau, la confusion, l'ignorance, la haine. Il est donc important d'avoir un ou plusieurs de ces sages vers qui tourner, non pas pour qu'ils décident à notre place, mais pour nous aider à clarifier notre esprit, de façon à ce que nous puissions décider. L'homme sage, dit le Bouddha, ou la femme sage, est caractérisé par ses actes. Ses pensées sont bonnes, ses paroles sont bonnes, ses actions sont bonnes. Ce qui rend une action bonne d'un point de vue bouddhiste, c'est l'état d'esprit qui est à son origine, c'est sa motivation. Une action est mauvaise quand elle est motivée, quand elle est empoisonnée par le désir, la haine ou l'ignorance, dans le sens d'idées fausses ou erronées. Quand une action est motivée par le contentement, la bonté, l'amour, la sagesse ou la connaissance, cette action est bonne. Donc, nous ne pouvons pas nous fier seulement aux apparences. Par exemple, on pourrait penser que vous parler du choix d'une voie spirituelle, comme je le fais ce soir, est une bonne action. Mais je peux le faire motivé par le désir de vous impressionner, d'avoir l'air importante. Je le fais pour moi, en quelque sorte, pour une satisfaction personnelle. Ou je pourrais le faire pour couvrir un complexe d'infériorité. Je ne m'aime guère et parler du bouddhisme me donne l'impression que je vaux quelque chose. Ou alors, je pourrais aussi le faire parce que je me crois parfaitement éveillé, c'est-à-dire sous l'emprise de l'ignorance. D'autre part, on peut aussi imaginer que l'on peut frapper un enfant, par exemple, motivé, pas trop fort, motivé par l'amour, le contentement et la sagesse. Il n'est donc pas facile non plus de savoir qui sont ces sages, puisque pour être sûr, nous devons aussi savoir ce qui les motive. Donc le sage est pour nous quelqu'un que nous connaissons bien, et nous voilà de nouveau avec nous-mêmes et notre expérience. Nous avons été témoins de leur vie longtemps, nous avons vu vivre de près, et nous n'avons pas remarqué de différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre qui ils sont et ce qu'ils font. Plus nous les connaissons, plus nous leur faisons confiance. Et ils n'abusent jamais de cette confiance. Plus nous les aimons et leur faisons confiance, plus nous gagnons un sens positif de nous-mêmes. Il nous aide à grandir, à mûrir, à nous développer, à nous améliorer. Donc il est possible qu'il n'y ait pas de sage dans notre vie. Il n'y a peut-être personne que nous connaissions suffisamment intimement pour pouvoir vraiment dire « ces actions sont l'expression du contentement, de l'amour, de la sagesse ». Donc où trouver ce sage, ces sages plus près de nous? Dans un ami. Dans quelqu'un qui, au moins quand il s'agit de questions importantes pour nous, est capable de mettre ses intérêts, ses gains, ses croyances personnelles de côté, capable de ne rien vouloir pour lui ou elle, de ne vouloir que ce qu'il y a de meilleur pour nous, et donc d'être guidé, au moins pour un temps et envers nous, par la générosité, la bonté et la sagesse. L'ami nous aide à devenir nous-mêmes, pas une réplique de lui-même. Nous aide à nous connaître, nous aide à nous connaître et nous aide à faire nos choix nous-mêmes. Donc j'ai essayé de vous donner une réponse bouddhiste. Je voudrais aussi vous donner la réponse d'une bouddhiste. C'est-à-dire une réponse basée sur ma propre expérience du choix d'une voie spirituelle. Mais d'abord, je n'étais pas consciente que je cherchais quelque chose. Je savais, comme je l'ai dit, je savais surtout ce que je ne voulais plus. Et je voulais aussi méditer. Je voulais méditer parce que je voulais apprendre à me concentrer. J'avais l'esprit trop trop dispersé. Oui, je voulais apprendre à me concentrer. Et donc j'ai appris à méditer dans un centre des amis de l'ordre bouddhiste occidental en Angleterre. Et c'est donc de cette façon-là que je suis rentrée peu à peu en contact avec le bouddhisme. Donc j'ai pas eu l'impression de choisir, je me suis trouvée dedans, disons, comme par hasard. Un terme qui décrit mieux mon expérience, c'est un terme de réponse, ou de résonance, même de reconnaissance, ou correspondance. C'était en quelque sorte comme si j'étais chez moi, dans un terrain familier. Et j'étais attirée de façon profonde, intuitive, émotionnelle, en quelque sorte la réponse de la foi, qui dans un certain sens n'a pas besoin de la raison pour savoir que c'est vrai et noble. Néanmoins, ce n'était pas une foi aveugle. J'avais toujours ma raison et mon expérience sur lequel m'appuyer. L'expérience de ma vie, j'avais appris à faire confiance à mon intuition. Je savais que je n'étais pas naïve ni intempestive. Mais aussi parce que j'étais déjà arrivée moi-même à des conclusions qui étaient en accord avec les doctrines bouddhistes. Et je pouvais dire, je sais que cela est vrai, cela fait partie de mon expérience. Donc pour moi, il n'y a pas eu tellement une question de choix, de voie spirituelle. En quelque sorte, je suis un peu tombée sur une voie. Le choix fut sans doute plus pour moi entre la façon de pratiquer le bouddhisme, à la tibétaine, ou de façon plus occidentale. Et pendant quelques années, j'essayais de parcourir les deux voies en même temps. Heureusement, elles sont parallèles, elles vont dans la même direction, mais elles sont quand même différentes. Émotionnellement, je pensais plus du côté tibétain, mais plus je pratiquais d'une façon ou d'une autre, plus il devenait évident que je changeais bien plus radicalement, que je m'améliorais davantage en suivant la voie, les méthodes de l'ordre bouddhiste occidental. C'est donc cette voie que j'ai choisie pour me conduire à la liberté, au contentement, à la compassion, c'est des aspects de l'état du Bouddha qui m'attirent. Mais ce choix réel, je le fis vraiment qu'après 3 ans de pratique. Donc bien que la réponse bouddhiste à la question « comment choisir une voie spirituelle » est nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes, qu'en notre expérience, j'espère néanmoins, si cette question est la vôtre, que vous vous sentez moins seul avec, plus confiant en votre capacité de faire un choix, et un bon choix, et que vous êtes inspiré par l'idée que ce choix est votre responsabilité, stimulé par le désir de mieux vous connaître dans, dans toute votre grandeur, votre totalité, votre complexité. J'espère surtout que vous êtes plus confiant en votre capacité de faire un bon choix, parce qu'il sera l'expression d'une vision, d'une expérience profonde, de ce qui, pour vous, est vrai et réel. Une dernière remarque. J'ai parlé de choisir avant de s'engager, comme si c'était quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. Mais quelle que soit la voie que nous choisissons, et ça, ça peut... c'est quelque chose qu'on peut faire même pas dans le contexte d'une voie spirituelle. Je crois qu'il est important de continuer à nous poser les mêmes questions qu'au début. Quel est mon but? Pourquoi est-ce que je fais ça? Ce que je fais m'y mène-t-il? Une voie spirituelle, une religion, n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Ce sont des pratiques et des méthodes qui conduisent au développement spirituel de l'individu. Les pratiques même qui aident au début peuvent devenir une entrave au développement. Ce qui était une voie est devenu une prison. Par exemple, la méditation. On peut commencer plein d'enthousiasme, on a des expériences profondes, on se découvre, on semble comprendre un peu mieux un sens de l'existence. Et on change pour le mieux. On devient plus patient, plus concentré, plus calme, plus capable de choisir, plus avoir un sens de contrôle dans sa vie, de choix. Donc on continue, tous les jours, pendant longtemps, et on continue à méditer tous les matins, disons, longtemps après que la méditation ait cessé d'avoir un effet positif. On ne sait même plus pourquoi on médite. La méditation est devenue rigide, morte. Mais on a peur de l'abandonner, elle est devenue une habitude. Elle est devenue moi, ça fait partie de nous-mêmes. L'abandonner serait ne plus se reconnaître. Ce qui était plein de vie et un moyen d'atteindre le plus profond, de développer le plus noble en soi, est devenu un moyen de se cacher. Parce qu'on ne s'est pas aperçu que ce qui n'était qu'un moyen est devenu une fin en soi. Et c'est pour cela que le Bouddha dit de son enseignement qu'il est comme un radeau, quelque chose qui supporte, qui est utilisé pour une traversée, et que l'on laisse derrière quand il a besoin, pas qu'on porte sur sa tête. C'est aussi pourquoi un maître bouddhiste zen dit à ses disciples, pour qu'ils ne perdent pas de vue la raison d'être des pratiques religieuses, si tu vois le Bouddha, tue-le. Voir le Bouddha, c'est la complaisance. C'est la complaisance spirituelle, c'est croire qu'on est arrivé, qu'on a tout compris, et ceci nous cache en fait le Bouddha, nous empêche d'aller plus loin. Le tuer veut dire tuer en nous la fierté, l'ignorance, la peur de l'inconnu, la peur d'aller plus loin, la peur de la réalité. Donc pour conclure, sans entraver votre foi, votre imagination, votre enthousiasme. Il est important de ne jamais perdre notre esprit critique, d'être prêt à tout remettre en question. Je parle d'une voie, mais une voie spirituelle n'est pas un boulevard bordé d'arbres. Ce n'est pas une autoroute avec des pancartes grosses et nettes qui indiquent Nirvana 100 km. Mais bien plutôt un chemin tortueux, à travers jungles et marais, que nous suivons souvent à tâtons et dans l'obscurité. Cette voie, c'est nous-mêmes. Et je vous souhaite de la suivre comme une aventure, passionnément, et d'arriver au meilleur de vous-même.
j'étais en train de... J'étais concentré quand même. Mais j'ai confession à dire parce que j'étais en train de réfléchir un peu. Et je pensais parce que ça...